Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une série d'articles assez révélateurs tirés d'un numéro spécial du magazine IMAG. Le thème, le rapport complexe, on peut dire, entre les jeunes Marocains et la science.
Oui, un rapport parfois un peu paradoxal.
Exactement. Et ces textes y posent une question centrale, je trouve. Pourquoi la science, qui est quand même essentielle pour l'avenir, pourquoi elle fait si peu rêver les jeunes au Maroc ? Surtout si on compare avec le foot ou le rap, par exemple. Quelles conséquences ça peut avoir ?
C'est toute la question.
Alors, notre objectif, c'est de décortiquer tout ça, d'extraire l'essentiel de ces sources, les points de vue différents, pour avoir une vision claire et rapide. Allons-y.
Oui, et les articles nous poussent vraiment à regarder sous la surface. On va explorer ensemble les raisons de ce désintérêt apparent. Le manque de modèles, peut-être. Le poids de la famille, des médias aussi. Mais, et c'est important, on va aussi regarder les solutions, les pistes qui sont proposées.
Ah oui ?
D'ailleurs, il y a un événement récent qui est mentionné et qui est intéressant, l'élection de M. Driss Louaradi à la présidence mondiale du 1007.
Le Mouvement international pour les loisirs scientifiques et techniques.
C'est ça, une reconnaissance importante pour le Maroc, et ces analyses qu'on trouve dans les textes sont assez éclairantes, je trouve.
Alors, commençons par le constat. Les articles démarrent fort avec une image, une scène, dans une classe à Kénitra. Le prof demande aux élèves ce qu'ils veulent faire plus tard. Et là, les réponses fusent. Footballeurs comme Hakimi, Bounou, rappeuses comme El Grande et Toto.
Ou ingénieurs, mais souvent à l'étranger.
Voilà, ingénieurs à l'étranger. Mais chercheurs ?
Scientifiques au Maroc ?
Oui.
Très, très peu. Clairement, la science n'est pas sous les projecteurs.
Non. Et les auteurs des articles donnent plusieurs raisons. L'une des plus fortes, c'est l'argent, l'aspect économique. La science, elle traîne cette image un peu tenace de précarité. Le cliché du chercheur passionné mais fauché, quoi.
Oui, ça persiste.
Et ça contraste énormément avec l'image de richesse parfois rapide du sport ou de la musique. Les chiffres donnés dans les articles sont frappants. Un doctorant qui a une bourse, il gagne quoi ? Entre 3 000 et 5 000 dirhams par mois.
C'est pas énorme.
Non. Alors qu'un jeune ingénieur, lui, commence plutôt vers 10 000, 15 000 dirhams. Et je ne parle même pas d'un footballeur pro dans la Botola, le championnat national. Là, on est sur du 50 000, 100 000 dirhams par mois, minimum. Le fossé est gigantesque, effectivement.
Immense.
Mais ce n'est pas juste une histoire d'argent, si je comprends bien ce que disent les sources. Il y a aussi le temps et la reconnaissance.
Tout à fait. La science est un marathon. Les articles rappellent qu'il faut souvent 10 ans d'études après le bac. Et la reconnaissance, quand elle arrive, elle est souvent tardive et plutôt discrète.
Alors que dans le foot ou le rap, le succès peut être fulgurant.
Et surtout très médiatisé.
C'est exactement ça. Et en plus, il y a ce que les articles appellent une sorte d'invisibilité structurelle. Les chercheurs, leurs découvertes, ça reste souvent dans le cercle académique.
Même les institutions importantes, oui, même des institutions comme le MACIR, qui fait de la recherche appliquée, ou le SNESTEN pour le nucléaire, ils font des choses importantes, mais le grand public ne les connaît pas. Et les médias généralistes, comme le soulignent plusieurs papiers, ils parlent très peu de sciences marocaines.
Et cette invisibilité, ça mène directement à un autre point crucial des sources, le manque de modèles. Pourtant, le Maroc a des scientifiques brillants, reconnus partout dans le monde. Les articles en citent plusieurs.
Ah oui, les exemples sont forts.
Rachid Yazami, l'inventeur clé des batteries lithium-ion qu'on a dans nos téléphones. Raja Charkaoui El Mursli, physicienne au CERN. Myriam Shadid, l'astrophysicienne en Antarctique. Kamal Oudriri à la NASA. Ilham Kadri, devenu PDG d'un géant mondial de la chimie, Solvay.
Des parcours incroyables.
Incroyables ? Mais leurs histoires, leurs noms, ils sont très peu racontés, peu célébrés au Maroc. Pas comme les sportifs, en tout cas. Difficile de créer des vocations comme ça.
Absolument. Ce manque de récits, de visages connus associés à la science, c'est vu comme un frein majeur. Une des analyses le dit bien. Ce qui n'est pas raconté n'existe pas dans l'imaginaire collectif.
C'est vrai.
Sans une histoire attractive, sans héros scientifiques, la science ne peut pas vraiment faire rêver. On veut ressembler à ce qu'on voit, à ce qui brille. Et pour l'instant, c'est surtout les terrains de foot et les scènes de rap qui attirent la lumière.
Et les articles vont plus loin, ils creusent aussi du côté des facteurs culturels, sociaux. La famille, notamment.
Oui, le rôle de la famille revient souvent. Il faut dire qu'avec un taux de chômage des jeunes de 15-24 ans qui est très élevé, autour de 36-37%.
Et même chez les diplômés, c'est pas simple, autour de 19%.
Exactement. Donc on comprend que les parents soient préoccupés par la sécurité matérielle de leurs enfants. Et ça se traduit, d'après les sources, par une pression assez forte pour choisir des voies sûres.
Médecins, avocats, ingénieurs, les classiques.
Voilà, des métiers bien établis, valorisés socialement. La recherche scientifique, à côté, ça paraît aléatoire, incertain.
Moins concret, peut-être.
Moins concret, moins sûr. Et les témoignages dans les articles sont assez parlants, je trouve. Il y a ce jeune, Ahmet, 23 ans, passionné d'astrophysique. Son père lui dit « Regardez les étoiles, ça ne remplit pas l'assiette ».
Ah oui, c'est direct.
Du coup, il part en école d'ingénieur. Où Sarah, 21 ans, très douée en biologie, elle rêvait de faire une thèse. Sa mère la pousse vers la pharmacie. C'est un métier d'avenir stable.
Ce tiraillement entre la passion et la pression familiale, les sources disent que c'est fréquent.
Très fréquent, oui. C'est présenté comme un dilemme quasi constant pour beaucoup de jeunes attirés par la science.
Et ce qui est un peu ironique, c'est que même quand on parle des réussites de la diaspora scientifique marocaine, ça peut, sans le vouloir, renforcer l'idée qu'il faut partir pour réussir dans ce domaine. Ça ne construit pas forcément le rêve d'une carrière ici, au Maroc.
C'est une nuance intéressante soulevée dans les textes, oui. Et au-delà de la culture de la famille, il y a aussi le système éducatif et les médias. Le système scolaire est souvent décrit comme lourd, très théorique, centré sur la mémorisation pour les examens.
Pas assez sur la compréhension profonde, l'expérimentation.
C'est ça. D'ailleurs, Driss Louaradi, dans l'entretien cité, il fait le lien avec les scores, disons, moyens du Maroc aux évaluations internationales comme TIMSS ou PISA.
Qui mesurent justement les compétences en sciences et maths.
Exactement. Pour lui, cet apprentissage trop mécanique est en partie responsable.
Les sources parlent aussi du manque de travaux pratiques, d'expériences, surtout en milieu rural, j'imagine.
Oui, c'est un gros problème. Les labos sont souvent sous-équipés ou même inexistants. Et puis, la pédagogie dominante, elle est décrite comme trop passive. Ça n'encourage pas la curiosité naturelle des enfants, leur envie de chercher, de tester.
Il y a aussi la formation des enseignants à des méthodes plus actives, c'est mentionné.
Oui, et sans oublier, certains articles le notent, les biais de genre. Ils existent toujours et peuvent décourager des filles, même brillantes, de choisir certaines filières scientifiques.
Et puis, il y a l'écosystème médiatique et numérique.
Ah oui.
D'un côté, les médias traditionnels qui parlent peu de science. De l'autre, les réseaux sociaux, comme Instagram, TikTok, que les jeunes adorent. Mais la logique de ces plateformes avec les algorithmes, ça favorise le contenu court, l'émotion, le spectaculaire.
Ce qui va bien au rap, par exemple.
Tout à fait. Mais une explication scientifique, ça demande souvent plus de temps, de nuances, ça passe moins bien. Une analyse le dit, c'est plus facile pour un rappeur de se créer une marque, d'être visible, que pour un chercheur. L'économie de l'attention, elle joue contre la science sur ces plateformes.
Bon, le portrait est assez préoccupant, mais les articles ne sont pas que négatifs. Ils soulignent aussi les points forts, le potentiel. Heureusement, oui. Ils insistent sur le fait que les jeunes Marocains ne sont pas désintéressés par nature. Ils sont curieux, ils sont connectés, ils ont envie d'apprendre.
Et il y a des réussites scientifiques concrètes au Maroc, même si elles sont peu connues.
Exactement. Des élèves qui gagnent des prix aux Olympiades scientifiques internationales. Des découvertes archéologiques majeures faites par l'INSAP.
Comme le plus vieil Homo sapiens ou les plus anciens bijoux du monde. Des découvertes publiées dans Nature Science.
Voilà. Ces succès existent, mais ils manquent cruellement de relais médiatiques.
C'est là que la vision de Driss Louaradi, le nouveau président du 1007, devient intéressante.
Oui, il apporte une note d'optimisme. Il insiste sur le potentiel énorme du Maroc. Un potentiel qui vient de son histoire scientifique riche. On pense à l'âge d'or arabo-musulman, à Averroès, Ibn Rushd.
Dont la pensée rationnelle a beaucoup influencé l'Europe.
Exactement. Mais aussi un potentiel actuel, dans les capacités d'aujourd'hui. Et lui, il met l'accent sur l'éducation non formelle. Les clubs de sciences, les musées interactifs, les loisirs scientifiques, c'est le cœur de métier du 1007.
Son argument, c'est que les enfants passent la majorité de leur temps hors de l'école.
Près de 86% de leur temps éveillé, selon lui. Donc cet espace hors école, c'est une opportunité énorme pour éveiller l'intérêt scientifique, mais de façon ludique, pratique.
Alors face à tout ça, quelle piste d'action proposent les sources? Elles ne manquent pas d'idées, apparemment.
Non, il y a pas mal de suggestions. Une idée forte qui revient, c'est qu'il faut raconter la science différemment. Lui trouver une nouvelle histoire.
Une sorte de pop science.
Oui, voilà, de la pop science bien faite. Utiliser le storytelling, créer des héros, des images fortes. Et surtout, aller là où sont les jeunes. Faire des vidéos courtes et percutantes pour TikTok, créer des chaînes YouTube dédiées, des podcasts, des BD, des festivals plus fun.
et cette idée d'hybrider la science avec d'autres passions.
Oui, c'est très intéressant. Un article donne l'exemple d'un prof de physique, M. El Idrissi, qui explique la loi de Bernoulli avec la trajectoire d'un ballon de foot.
Un malin.
Ou un autre exemple, celui d'un jeune beatmaker, Yacine, fan de rap. Pour faire sa musique, il manipule des fréquences, des algorithmes, il fait de la physique et de l'informatique sans même s'en rendre compte. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qui les passionne déjà pour les amener vers la science.
D'accord. Et l'autre grande piste, c'est de rendre les chercheurs plus visibles. Comment on fait ça?
Plusieurs idées. D'abord, former les scientifiques eux-mêmes à mieux communiquer. Ensuite, créer des émissions, des portraits médiatiques qui racontent leur parcours. Utiliser la diaspora aussi, pas juste comme des exemples lointains, mais en créant des ponts, du mentorat, les faire venir témoigner.
Et mettre en avant les femmes scientifiques, c'est souligné aussi.
Absolument crucial pour casser les stéréotypes. Il y a même cette idée un peu imagée de créer un panthéon des héros scientifiques marocains.
Ça aurait de l'allure. Mais la com, ça ne suffit pas. Les sources parlent aussi d'agir sur l'environnement, l'écosystème.
Oui, c'est fondamental. Il faut améliorer les conditions matérielles, les bourses de thèse, les salaires des chercheurs, les perspectives de carrière. Il faut aussi encourager l'entrepreneuriat scientifique, aider à créer des start-up deep tech.
Celles basées sur des innovations scientifiques fortes.
C'est ça. Mieux valoriser les brevets de la recherche publique, favoriser les liens entre universités et entreprises, et bien sûr réformer l'école, changer la pédagogie pour stimuler la curiosité, l'expérimentation. Ça passe par la formation des profs, l'équipement.
Les textes vont même plus loin. Ils disent que la science devrait faire partie de la culture générale, comme l'art ou l'histoire. Pourquoi c'est si important selon eux?
Parce que c'est vu comme un enjeu démocratique. Une population avec une meilleure culture scientifique, c'est une population mieux armée contre les fausses nouvelles, les théories du complot, l'obscurantisme. Driss Loardi parle même de la science et de l'esprit critique comme d'un vaccin contre les infodémies.
Un vaccin, l'image est forte.
Oui, et il appelle aussi à un dialogue apaisé entre science et foi, en se basant sur l'héritage intellectuel arabo-musulman, tout en abordant les questions éthiques d'aujourd'hui.
Ce paradoxe historique relevé dans les sources est fascinant. Averroès, la pensée rationnelle arabo-musulmane, ont eu un impact énorme en Occident.
Mais moins dans la culture populaire du monde arabo-musulman lui-même, faute de relais à l'époque.
Elo Aradi voit une opportunité aujourd'hui. Peut-être que l'aspiration d'une partie des jeunes Marocains à plus de rationalité pourrait permettre de renouer avec cet héritage critique.
Exactement. Cette quête de sens, de compréhension rationnelle du monde chez les jeunes, s'est perçue comme un levier possible.
Alors, face à l'ampleur de tout ça, il y a cette idée qui revient. Un pacte national pour la culture scientifique. Qu'est-ce que ce serait concrètement?
Ce serait un engagement collectif, vraiment. Mobiliser tout le monde. L'État, bien sûr, avec ses politiques, mais aussi l'école, les médias, les entreprises, les associations. L'idée, c'est d'en faire une vraie priorité nationale partagée. Et surtout, de rendre la science désirable, accessible pour les jeunes.
Et les jeunes eux-mêmes, quel rôle pourraient-ils jouer là-dedans?
Les sous s'en parlent. Oui, elles posent la question. Pour l'instant, la science est assez absente des grands débats politiques ou médiatiques au Maroc. Mais cette jeunesse, elle est connectée, elle est créative, elle s'inquiète pour son avenir. Pourrait-elle se mobiliser, utiliser les réseaux sociaux, par exemple, pour imposer la science et l'innovation comme des sujets importants, des enjeux citoyens? C'est une question ouverte.
Mais une piste à considérer.
Certainement.
Bon, si on essaye de résumer tout ça, on a d'un côté un potentiel scientifique marocain qui est bien réel, une jeunesse curieuse, et de l'autre, ce potentiel est freiné par un manque d'image, de reconnaissance culturelle et aussi un soutien systémique qui n'est pas encore à la hauteur. Ce qui fait que la science, elle ne décolle pas comme projet collectif.
C'est tout à fait ça. L'enjeu est décrit comme stratégique dans les textes. Ça touche à l'innovation, à la souveraineté technologique, à l'économie, mais aussi à la capacité de la société à faire face aux grands défis, comme le changement climatique, la désinformation, qui demandent une pensée rationnelle.
L'élection de Driss Loardi au 1007, c'est peut-être un signe encourageant.
On peut le voir comme ça, oui. Une reconnaissance qui pourrait donner un nouvel élan. Les pistes d'action, elles sont là. Renouveler la pédagogie, investir le numérique intelligemment, raconter la science autrement, valoriser tous les talents, femmes, diaspora comprises.
Alors pour finir, une question qui reste en suspens après ces lectures. Au-delà des grandes stratégies, comment on fait, au quotidien, pour protéger cette petite étincelle de curiosité scientifique chez un jeune? Comment faire pour qu'elle ne s'éteigne pas, face à la pression économique, sociale, familiale? même si, ironiquement, elle a été allumée par un but de foot ou un rythme de rap?
C'est une excellente question pour réfléchir.
Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.